Sylvain à l'introduction. Donc nous avons vu la fois passée la bibliographie. Donc j'ai dit quelques mots sur la bibliographie. L'auteur et la date de rédaction de l'évangile selon Matthieu. J'ai lancé quelques idées. Hein. Je n'ai absolument rien prouvé dans ce que j'ai dit au sujet de cet évangile. J'ai donné quelques pistes à vous de travailler cette question. Le livre auquel je faisais allusion n'est pas un livre technique. Donc c'est ce livre-là qui est à la bibliothèque. Philippe Roland, l'origine et la date des évangiles, le témoin oculaire de Jésus. Alors Philippe Roland a écrit de nombreux, un livre et de nombreux articles, beaucoup plus techniques, sur cette question, mais vous pouvez donc consulter ce livre si ça vous intéresse. Et nous avons, la fois passée, débuté le grand A de mon plan. Alors j'espère que vous avez tous le plan, hein, parce qu'on va s'y référer. Moi-même, je construis le cours à partir de cela. Donc le plan du cours, et puis les documents que je vous ai donnés avec le cours sont pour suivre, c'est important de les avoir sous les yeux. Donc la recherche, nous avons abordé la grande A, la recherche structurelle, et j'ai justifié cette démarche en soulignant que c'est au travers de la manière dont chaque évangéliste a structuré son évangile, a organisé le donné évangélique, que l'on voit, que l'on comprend ce qu'il veut dire. C'est toujours en comprenant la structure d'un discours que l'on arrive à ne pas faire trop de contresens en ce qui concerne ce qui est dit dans le discours. Alors, nous avons vu le grand 1, une perspective géographico-théologique. C'est la manière dont certains proposent de structurer l'évangile sur Matthieu, c'est à partir de la perspective géographico-théologique. Alors, j'ai oublié de dire la fois passée, donc si vous prenez votre document 2, page 40, approche structurelle, j'ai oublié donc de renvoyer à ce point, vous avez un grand 1 sur ce document, structure chronologico-géographique. Et j'ai là simplement relevé toutes les données géographique que l'on a dans l'évangile de Matthieu, naissance et enfance du Messie, préparation du ministère, bon ça se passe, naissance et enfance, ça se passe à Bethléem puis après à Nazareth, puis ministère en Galilée, au-delà de Galilée, vers Jérusalem, les derniers jours, c'est comme ça que certains structurent l'évangile, et puis alors à droite, vous avez une proposition de structuration, prologue, préparation du ministère, ministère en Galilée, au nord de la Galilée, vers Jérusalem, opposition à Jérusalem, résurrection. C'est quelque chose qui est un peu plaqué sur l'évangile. Là, on va le voir par la suite. Alors que pour l'évangile de Luc, ça correspond vraiment à la structure de l'évangile. Jésus est en Galilée, puis il va vers Jérusalem. Dans Matthieu, ça ne semble pas très évident. Donc nous avons abordé le deuxième point, la fois passée, des moments clés, 4.17 et 16.21, et une inclusion, point d'interrogation. Toujours dans cette recherche structurelle. Alors, selon certains théologiens, et j'avais souligné qu'il s'agissait de Kingsbury en particulier, qui est celui qui a le plus insisté sur cette manière de comprendre la structure de Matthieu. Selon certains théologiens, il y a deux moments clés, nous l'avons vu juste à la fin du cours la fois passée, deux moments clés où on retrouve les mêmes expressions en 4, 17 et en 16, 21. Je reprends donc les choses à partir de là pour que ce soit plus clair. 4.17, 16.21, je lis dans la tobe. Hein. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». Et puis en 16.21, on retrouve une expression pratiquement identique. À partir de ce moment, là c'est identique, Jésus-Christ, pas dans tous les manuscrits, commença à montrer à ses disciples. Jésus commence. Et donc, selon ces théologiens, l'évangile, selon Matthieu, serait structuré fondamentalement autour de ces deux moments clés. il y aurait le début de l'évangile, puis un moment clé, le début du ministère de Jésus, et un deuxième moment clé, qui se situe, 16, donc en 16-21, après la confession de foi de Pierre. Et alors Kingsbury et ceux qui le suivent, Kingsbury a proposé le plan suivant, que vous avez donc toujours sur le document 2. Une structure thématique, c'est ce qu'on a appelé, certains en tout cas, ont appelé la structure thématique. Ça va, vous l'avez sous les yeux ? Donc, il y aurait dans le chapitre 1.1 à 4.16, le titre qu'il a donné à cela, c'est « La personne de Jésus le Messie ». Puis, à partir de 4.17, moment clé, qui ouvre donc une grande section de Matthieu, la proclamation de Jésus le Messie, puisqu'en 4.17, il est dit « À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer. » Le royaume de Dieu s'est approché. Puis vous avez la confession de Pierre, à la fin de cette grande section. Puis, en 16.21, débute la troisième partie, juste après la confession de Pierre, la mort et la résurrection de Jésus le Messie. Et à l'appui d'une telle structure, Kingsbury souligne qu'à chaque fois, on retrouve dans ces textes une confession de foi concernant Jésus, Fils de Dieu, ou Jésus, Dieu avec nous. Alors, je l'ai mentionné sur le plan. Donc, dans la première section, au chapitre 1, verset 23, vous avez cette parole que Matthieu rappelle, hein, cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 7. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, au cœur de cette première section, de la présentation de Jésus le Messie, vous avez « Il est Dieu avec nous ». À la fin de la deuxième section, chapitre 16, verset 16, il est dit, c'est la confession de Pierre, c'est Pierre qui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc là, de nouveau, toute cette section sur la proclamation de Jésus le Messie aboutirait, selon Matthieu, la structure que propose Matthieu, à cette confession de foi fondamentale, Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Et de nouveau la troisième section, sur la mort et la résurrection de Jésus, qui débute en 16-21. Alors pourquoi en 16-21 ? C'est parce que Pierre s'oppose à l'idée que Jésus devra aller à Jérusalem pour mourir. Et donc, en 16-21, débute l'annonce de la mort du Messie. Jésus qui dit, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem pour mourir. Et tout cela, ça finit, ça aboutit à quoi ? À 28-20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui.
L'autre chose dont vous parlez, il n'est pas cité dans la Bible.
Non, il se trouve en notes. Donc dans structure thématique, vous avez le petit 4, J.D. Kingsbury, Matthew Structure. Alors je le donne parce que c'est lui qui a le plus travaillé cette question, hein, qui a proposé cette structure qui est suivie par de nombreux théologiens. Alors, 28-20, donc, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous voyez bien sûr la présence, selon Kingsbury en tout cas, d'une inclusion, c'est-à-dire de deux éléments que l'on trouve au début et à la fin. Au début, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit, Immanuel, Dieu avec nous. Et l'évangile finit avec « Je suis avec vous ». C'est Jésus avec nous, le Fils avec nous. Une inclusion. Matthieu, donc, dans son évangile, chercherait à nous montrer ça. D'abord, c'est autour de cette ossature, cette structure, que Matthieu a mis la chair du donné évangélique. Et c'est au travers de cette dynamique que met en évidence cette structure, présentation du Fils de Dieu, proclamation du Fils de Dieu, mort et résurrection du Fils de Dieu. C'est au travers de cette structure fondamentale qu'il faut comprendre tout le mouvement de l'Évangile. C'est ça qu'il veut nous prouver, qu'il veut nous montrer, qu'il veut nous rappeler. Alors, que penser de cette compréhension de la structure de Kingsbury? Je trouve qu'elle est assez intéressante. La présence de l'inclusion me semble assez évidente. On démarre avec la proclamation de Dieu avec nous, et l'on finit avec l'affirmation « Je suis avec vous ». Il y a là une affirmation très forte de la divinité de Jésus-Christ, hein, surtout que Jésus, en disant « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit « Allez dans toutes les nations et baptisez-les ». Alors vous savez qu'en grec, ce n'est pas la même chose qu'en français. En français, lorsque vous dites les messieurs enlevèrent leur chapeau, votre leur chapeau, c'est au singulier, parce que chacun a un chapeau, en français. En grec, c'est pas ça. En grec, on dirait leur chapeau avec un S. Alors en français, quand on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom, c'est au singulier. Mais c'est très ambigu. Pourquoi? Parce que ça fait penser qu'il y a là trois noms. Mais on met le nom au singulier parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun leur nom. Mais en grec, c'est pas ça. En grec, on a là un singulier, pas un pluriel. S'il y avait trois noms, Père, Fils, Saint-Esprit, on aurait eu baptisez-les au nom au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en grec, il y a bien baptisez-les au nom au singulier du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui pourrait être traduit dans une traduction assez dynamique, baptisez-les au nom unique du Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un seul nom pour ces trois personnes. Une affirmation trinitaire extrêmement forte que souligne la grammaire grecque. Alors cette inclusion est donc très, 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 très présente. Jésus se présente comme, pardon, Matthieu présente Jésus comme Immanuel, Dieu avec nous, et à la fin de l'histoire évangélique, c'est « Je suis avec vous » et baptisez-les au nom d'Emmanuel, du seul nom, Père, Fils, Saint-Esprit. Et il y a là donc quelque chose que je crois très juste dans cette structure, dans cette mise en évidence de l'inclusion par Kingsbury. Il y a pourtant des faiblesses qui m'amènent à dire que cette structure ne correspond pas à l'ossature de l'évangile de Matthieu. À mes yeux, bien des théologiens suivent Kingsbury. Mais à mes yeux, il y a de grandes faiblesses dans cette structuration d'évangile qui m'amènent à dire que ce n'est pas au travers de cette structure que je peux discerner le sens de cet évangile. Alors, quelles sont ces faiblesses? Il y a d'abord les titres qui sont donnés à chacune des sections. La personne de Jésus le Messie, on pourrait encore accepter ce titre. C'est vrai qu'au début, et nous allons le voir, dans les chapitres 1.1 à 4.16, de plusieurs manières, c'est la personne du Messie qui est présentée. Mais dire qu'en 4.17 à 16.20, on ne se situe plus dans la personne, de la découverte de la personne de Jésus le Messie, cela me semble assez forcé. En fait, la confession de Pierre aboutit précisément à la découverte de l'identité même de cette personne. Et l'on verra, lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, on se rend compte que de 4:17 à 16:20, Jésus se présente constamment. Et qu'on a au moins autant la proclamation de Jésus le Messie, Jésus refusant d'ailleurs tout le temps qu'on l'appelle Messie, il accepte que, un peu contraint et forcé par la confession de Pierre, hein, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il accepte en privé, mais refuse que ce soit dit en public, à cause des fausses conceptions du Messie qu'avaient les Juifs. Donc, dire que ça se limite à la proclamation de Jésus le Messie me semble assez erroné. Parce que dans toute cette section, on découvre le Messie, qui se présente de plus en plus, en particulier au moyen d'un thème qui est totalement absent des chapitres 1:1 à 4:16, c'est le thème du Fils de l'homme. C'est dans la deuxième section que Jésus se présente lui-même comme le Fils de l'homme. Ce n'est pas simplement de la proclamation, c'est aussi de la présentation. Oui. On va y venir un peu plus tard. On va y venir un peu plus tard. Et alors, dans la proclamation de Jésus le Messie, comment fait-on entrer des textes comme le sermon sur la montagne? Est-ce que c'est simplement la proclamation de Jésus le Messie? Est-ce que c'est pas plus que cela? Etc. Vous pourrez développer cela. Troisième argument qui m'amène à dire que cette structure ne me semble pas correspondre vraiment à ce que je trouve dans l'évangile selon Matthieu, c'est la coupure de 16:21. Chapitre 16, donc, de l'évangile. Nous avons en 13, donc 16:13 à 20, la confession de Pierre. Puis on a à partir de 21, à partir de ce moment, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'il lui fallait beaucoup, donc il fallait souffrir. Bien. Puis en 16:28, on a l'annonce, juste après la confession de foi de Pierre, de la venue de Jésus comme roi. Donc en réalité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Et puis au chapitre 17, vous avez la transfiguration. Où précisément, Jésus est proclamé par le Père roi du royaume à venir, fils de Dieu. Celui-ci, mon fils, écoutez-le. On trouve cela, donc, à la fin. Verset 5, comme il parlait encore, chapitre 17, verset 5, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que de la nuée une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui ne m'a plus le choisir, écoutez-le. On se trouve là, apparemment, hein, en 16, 17, dans des textes qui sont liés les uns aux autres, qui présentent Jésus comme le fils de Dieu. Ce n'est pas seulement Pierre qui le confesse, mais c'est après la confession de Pierre, précisément parce qu'il vient d'être confessé, eh bien le Père lui-même révèle son Fils comme le Fils à la Transfiguration. Et cela, on le trouve dans les trois évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Quelques jours après la confession de foi, c'est dit, hein, 6 jours après, chapitre 17, verset 1, et l'on retrouve ce même type de lien temporel et dans Marc et dans Luc. Donc, lié à cette confession de foi, il y a la transfiguration. Il me semble très difficile de penser que Matthieu coupe tout son évangile en 16-21, parce que précisément la confession de Pierre est liée à la transfiguration, de manière thématique. C'est donc troisième raison pour laquelle je ne pense pas que cette structure soit juste. La quatrième raison, c'est le chapitre 26, verset 16 de Matthieu. Chapitre 26, verset 16. Vous avez au verset 16, à nouveau, cette expression à partir de ce moment-là. Alors, apototé en grec, c'est la même expression. Je sais que dans bien des traductions, c'est traduit autrement. Hein. Par exemple, dans la Tob, on traduit ça dès lors. Hein. Mais c'est exactement la même expression apototé en grec. À partir de ce moment-là. Verset 16. Hein. Donc, dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Si cette expression était, chez Matthieu, une expression clé qui signale la structure de l'évangile, la manière dont on doit comprendre l'organisation du donné évangélique dans Matthieu, il me semble très étonnant que Matthieu utilise là aussi, dans Matthieu chapitre 16, verset 7, chapitre 26, verset 7, la même expression, alors que de manière évidente, et Kingsbury le reconnaît, en 26, 16, cette expression n'est pas une expression structurelle. Elle ne structure pas le texte. Simplement, elle dit, à partir de ce moment-là. Voilà quatre raisons qui m'amènent à dire que la structure proposée par Kingsbury ne me convainc pas. Alors, quels indices structurels peut-on relever dans le texte qui nous permettraient de mieux comprendre cet évangile, d'entrer dans l'évangile en comprenant son ossature, son mouvement, sa dynamique? C'est mon grand 3 dans le plan. Ça va, vous suivez? Oui. C'est le grand 3, indice structurel. Indice structurel. Et c'est le grand 3 sur la page approche structurelle. Donc c'est le grand 3, structure d'alternance entre narration et discours et structure chiastique. Bien. Je relève certains éléments de l'évangile de Matthieu qui sont des indices structurels qui, moi, me paraissent fondamentaux. Alors quand je dis « moi », et à la suite de très nombreux théologiens. Premièrement, je découvre la présence de cinq discours dans Matthieu. Vous avez un premier discours, c'est le serment sur la montagne. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Vous avez un deuxième discours. C'est le discours de l'envoi des disciples en mission. C'est le chapitre 10, 9, 36 à 11, 1. Nous allons rentrer dans le détail un peu plus loin. Chapitre 10. Puis vous avez un troisième discours, c'est le discours sur les paraboles du royaume. Chapitre 13. Quatrième discours, un discours sur la vie de l'Église. Chapitre 18, si ton frère a péché, va reprendre, etc. Et cinquième discours, c'est un discours sur la fin des temps, chapitre 24 et 25. Alors, prenez dans vos documents le document 5, sur les cinq discours. « Et nous allons là constater un phénomène assez intéressant, qui me paraît très pertinent pour le discernement de la structure de Matthieu. J'ai regroupé donc, j'ai divisé les discours selon les péricopes, c'est-à-dire selon les différents sujets qu'ils abordent, en tenant compte des parallèles que l'on a dans Marc et dans Luc. Alors, que constate-t-on ? Donc, vous avez les cinq discours, vous avez le sermon sur la montagne, vous avez le choix et l'envoi des douze, vous avez les paraboles du royaume, vous avez la communauté du royaume, et vous avez, communauté du royaume, donc l'église, et vous avez les discours sur la fin des temps. D'accord ? Chapitre 24 et 25. Alors, dans Matthieu, bon, vous voyez, c'est chapitre 5, 6 et 7, vous avez le sermon sur la montagne. Dans Marc, il n'y a pas grand-chose comme parallèle. Maintenant, vous prenez Luc. Que constate-t-on dans Luc ? C'est que ce qui se trouve dans Matthieu, dans trois chapitres qui se suivent, qui forment une unité, tout le monde le reconnaît, on parle du sermon sur la montagne. Eh bien, on découvre que dans Luc, le donné qui se trouve dans Matthieu 5, 6 et 7 se trouve dispersé dans l'Évangile. Alors, le sermon, ce qui est le plus proche du sermon sur la montagne dans Luc, c'est ce qu'on a au chapitre 6. Heureux les riches, heureux les pauvres en esprit, malheureux riches, dit Luc. Hein? Malheureux riches, heureux les pauvres, malheureux riches. Vous avez des heureux et des malheurs. Alors ça, vous l'avez dans 6, 20, 23. Mais vous avez le sel. C'est dans 14, 34 et 35 dans Luc. Puis vous avez retour à 6, puis 6 de nouveau. Puis la prière, c'est dans 11, 2 et 4. C'est notre Père que nous avons lu ce matin. Je trouve au chapitre 11 dans Luc. Puis après, vous avez des textes qui sont au chapitre 12, puis au chapitre 11, puis au chapitre 16, puis au chapitre 12, puis au chapitre 6, puis au chapitre 11, 13, 6, 13, 6. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Matthieu a certainement rassemblé en un discours des paroles que Jésus a certainement dû dire à différents moments pour donner un résumé de l'enseignement de Jésus. Comme n'importe quel historien le ferait. Hein. Alors soit, vous, par exemple, vous parlez de la vie de Cromwell, on parlait de Cromwell hier, vous parlez de Cromwell, et puis si vous faites les choses de manière un peu plus chronologique, vous allez dire, voilà, tel jour, Cromwell a dit ça. Puis trois chapitres plus loin, vous direz, ah, tel jour, Cromwell a dit ça. Mais un autre historien va dire, voilà l'enseignement de Cromwell. Il va créer un chapitre sur l'enseignement de Cromwell. Ou les discours de Cromwell. Et puis il va regrouper dans ce chapitre sur les discours de Cromwell des discours donnés à différents moments. Et il les regroupe dans un chapitre. Parce que lui, en tant qu'historien, est en train de nous présenter Cromwell, mais d'une autre manière que celui qui le fait, d'une manière strictement chronologique, par exemple. Vous voyez ? Bon. Et bien, c'est exactement ce que Matthieu semble avoir fait. Regroupant en 5, 6 et 7 des paroles qui sont dispersées dans Luc. Et alors là, vous voyez, par exemple, ce qu'il en est de la source Q. Les paroles viennent certainement de la source Q dont nous avons parlé. Mais là, ne sont pas dans l'ordre identique dans Matthieu et dans Luc, parce que précisément, pour ces discours, ces cinq discours, Matthieu a regroupé les choses. Un travail rédactionnel. Alors j'aimerais souligner cela, parce que j'imagine tout de suite certaines réactions. Est-ce que c'est fidèle alors ? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la vérité historique ? Oui, mais présenté d'une manière qui met en évidence ce que nous allons chercher à comprendre. Si Matthieu fait ça, c'est pour mettre en évidence quelque chose d'historiquement fondamental sur Jésus qu'il va falloir que nous discernions. Matthieu regroupe pour montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous montre ? On va voir. Mais il le fait à dessein. Parce que derrière se cache une interprétation de Jésus qui est historiquement fondamentale. Mais quoi? Je ne sais pas encore. On va y venir. Oui. Oui. Alors, nous allons y venir. Oui.
Je peux
poser
une question
qui... Oui, bien sûr, oui.
Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a regroupé les discours de Jésus dans Matthieu au lieu de... Qu'est-ce qui fait prendre cette hypothèse plutôt que celle qui dirait que Jésus a vraiment prononcé tout le sermon sur la montagne, mais qu'il répétait souvent les discours de façon plus ou moins modifiée, et c'est pour ça que dans Luc, on a des morceaux dispersés. Quels sont les indices dans le texte qui vont choisir une option plutôt qu'une autre?
Alors, il y aurait là tout un travail assez long à faire, hein. Si l'on opte, alors, je crois qu'il y a dans cette remarque, nous met en garde contre un danger trop simplificateur, hein, le danger de vouloir simplifier les choses. On dit, on regroupe. Pourquoi est-ce que justement Jésus n'aurait pas dit deux fois la même chose, à deux moments différents? Et alors, cette remarque est d'autant plus importante que si dans certains évangiles nous n'avions pas deux multiplications des pains, on aurait peut-être tendance à dire qu'il n'y en a eu qu'une. Matthieu en rapporte une à un moment, par exemple Luc en rapporte une autre à un autre moment, mais en fait c'est la même multiplication des pains. Et donc il y a dans les évangiles des événements qui se répètent, les multiplications des pains en particulier. Se pose par exemple le problème de la purification du temple. Dans les synoptiques, c'est à la fin du ministère de Jésus. Dans Jean, c'est au début du ministère de Jésus. Est-ce que c'est la même purification du temple? Certains théologiens évangéliques, très fermes, hein, pensent que c'est la même. Je pense qu'il y en a eu deux, à cause des différences importantes dans le texte même. Qu'il y en a une au début et une à la fin. Mais bon, d'autres pensent qu'il n'y en a eu qu'une. Donc je crois que là, vous nous mettez en garde contre le danger de simplifier de manière trop rapide. Maintenant, il faut quand même dire que si l'on applique une procédure d'harmonisation entre les évangiles, qui consiste à dire qu'à partir du moment où ça ne se situe pas au même endroit, Jésus l'a fait deux fois, vous allez, il y a 50 paroles qu'il faut multiplier par deux, 50 événements. La liste est incroyable. Des miracles identiques qui sont présentés de manière identique. Prenons par exemple le figuier stérile, enfin le figuier que Jésus maudit. C'est pas présenté tout à fait de la même manière dans Matthieu et dans Marc. Dans Matthieu, on peut penser que c'est le même jour. Dans Marc, c'est le lendemain. Bon, si on applique votre principe, donc Jésus a maudit deux fois un figuier. Un jour, lorsqu'il revient du temple, bon, et puis l'autre jour de nouveau. On est obligé alors, si on adopte ce principe, de dire la seule vérité que nous croyons vraie, c'est une vérité qui est chronologique. Que les évangiles, donc si les évangiles sont vrais, il faut que chronologiquement, on les respecte dans le détail. Alors je crois que l'on peut prouver très facilement que la chronologie n'est pas une donnée fondamentale des évangiles. Que les auteurs des évangiles ont regroupé les choses. Que leur point de vue ne les amenait à ne pas toujours respecter la chronologie, mais à regrouper les choses pour montrer autre chose qui est plus important pour eux que la chronologie. Et on peut prouver, en lisant à partir des textes de Joseph, qui est un historien juif de la même époque, on peut prouver à partir de textes grecs que l'histoire de l'époque même se faisait de cette manière-là. Que Joseph, lui aussi, regroupe des choses qui n'ont pas eu lieu en même temps. Mais pour des raisons pédagogiques, pour des raisons de présentation des choses, pour des raisons idéologiques, parce qu'il veut montrer certaines choses, eh bien Joseph regroupe, comme tous les historiens le font. Et dans les textes de l'époque, on voit ces mêmes procédures. Et cela dans un cadre plus rédactionnel, littéraire, que les évangélistes donnent au lecteur. Alors, est-ce que c'est...
Je pense que vous avez raison, surtout quand vous parlez des événements, ça semble tout à fait artificiel de multiplier les événements comme la révolution du figuier, mais j'ai pas l'impression que ça semble artificiel de dire que Jésus a dû répéter les mêmes paraboles à beaucoup de reprises, que son enseignement a dû être répété énormément pour que ses disciples l'assimilent, et qu'il y a des variantes dans les paraboles qui peuvent laisser croire qu'il a répété plusieurs fois la même parabole, mais en disant pas exactement la même chose. C'est le même sens. Il donnait son enseignement en le répétant. Je crois que c'est beaucoup plus facile de penser, de multiplier les paroles en disant qu'il les a répétées que de multiplier les événements. Évidemment, c'est beaucoup plus facile.
Alors,
multiplier les événements comme ça, c'est...
Je suis assez d'accord, d'accord.
Il y a la main qui est faite par le monsieur. Est-ce que le texte ne semble pas dire que Jésus est monté et puis il a fait son discours et après il est descendu? Ou alors est-ce qu'il y aurait d'autres éléments dans le texte qui pourraient nous faire croire que ça a été rassemblé? Mais est-ce que vous dites pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il regroupe? Oui, mais est-ce que c'est ce que le texte dit?
Oui, alors je vais y revenir. Alors, pour... il est certain que Jésus a dû répéter parfois certains enseignements pour que ça rentre bien dans la tête des gens. Et la tête de ses disciples. Ça, c'est clair. Et je crois qu'on trouve des paroles qui se répètent et que donc Jésus a dû dire à différents moments et qui sont intégrées à des récits différents. Bien. Je crois aussi que pour certaines paraboles, alors que certains ont tendance à dire que ce sont les mêmes paraboles, c'est le cas de une ou deux. Les talents, des mines, des choses comme cela. Je crois qu'en fait, nous avons affaire à deux paraboles qui se ressemblent mais qui sont différentes. Maintenant, c'est quand même très difficile de penser que Jésus a enseigné le Notre Père aux disciples à deux moments différents. Qu'une fois, il l'enseigne dans le sermon sur la montagne, et puis après, plus tard, les disciples viennent et disent « Apprends-nous à prier », il dit « Ben, priez, et voilà, je vous apprends le Notre Père. » Parce que les disciples auraient dû lui dire « Ah, mais tu l'as déjà appris, là, il y a... » Il me semble que pour bien des paroles, il y a un travail rédactionnel de regroupement que Matthieu a fait. Alors, soit le sermon sur la montagne. Alors, il est clair que Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, et Luc 6, renvoient au même événement. C'est le sermon sur la montagne. Bien. Donc, à la fin de cette prédication, de ce sermon, cet enseignement, Jésus est descendu de la montagne. Et Matthieu le note. Le cadre historique... Une grande partie de ce qu'il y a dans le sermon sur la montagne est juste et correspond à ce qu'on en trouve dans Luc, chapitre 6. Mais ce cadre historique fournit aussi un cadre rédactionnel. Jésus donne, il y a un discours de Jésus. Et est-ce faux de penser, ou est-ce scandaleux de penser, que Matthieu, de manière rédactionnelle, sans du tout vouloir tromper son public, a ajouté à ce discours sur la montagne d'autres discours de Jésus en les incluant de manière rédactionnelle dans ce sermon sur la montagne. Il me semble qu'il n'y a absolument rien de scandaleux. Ou alors, on tient de manière un petit peu superstitieuse à la notion de chronologie. Comme si la seule vérité historique qui existait, c'était la vérité chronologique. Non. Si dans l'intention de l'auteur de Matthieu, il n'y a aucune intention de tromper son public, les gens ont bien l'évangile de Luc, Il le sait très bien. Matthieu a certainement sous les yeux Marc. Il ne veut pas les tromper. Mais il retravaille. Il veut montrer autre chose. On va retrouver le même problème dans quelques temps, à propos d'autre chose. À propos du deuxième discours. Prenez le deuxième discours. Le temps passe. Il faut qu'on avance. Mais bon, c'est une approche des évangiles. On n'aura bien sûr pas le temps de faire tout Matthieu. Hein. On fera quelques éléments de Matthieu. Soyez en voie des 12. Vous avez là un discours dans Matthieu. D'accord ? C'est Matthieu 10. Alors, ce discours se trouve dans il y a des éléments de ce discours qui se trouvent dans trois chapitres différents de Marc. Marc chapitre 3, Marc chapitre 6 et Marc chapitre 13. Et alors dans Luc, vous avez ces discours des éléments de ces discours dans pas mal de textes de Luc. 6, 9, 21, 12. Alors, prenons Luc. Donc, dans Matthieu, il y a l'envoi des 12. Maintenant, prenons Luc. Luc, chapitre 9. Chapitre 9, verset 1. Ayant réuni les 12, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et les envoya. Bien. L'envoi des 12, dans Luc 9. Et maintenant, prenez Luc, chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Attendez. Luc 9. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? 12. Oh. Ah non, pardon, Luc chapitre 10. J'ai dû me tromper là, j'ai dû marquer 12 à certains moments alors que c'est 10. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, là j'ai dû me tromper. 17 à 16. Oui, il faudra juste revoir les parallèles dans Luc. J'ai dû me tromper un moment pour certaines péricopes. Si vous prenez Luc chapitre 10. Après cela, donc, le Seigneur désigna 72 ou 70 disciples, autres disciples. Ou 70 disciples. D'accord ? Et il les envoya. On voit que dans Matthieu, chapitre 10, vous avez un discours d'envoi des 12 en différentes péricopes. Alors que dans Luc, vous avez deux discours. Chapitre 9, c'est l'envoi des 12. Chapitre 10, c'est l'envoi des 72. D'accord ? Et ces éléments se retrouvent regroupés dans Matthieu. Alors, vous m'excusez parce que vraiment là, je me suis trompé. Donc Matthieu 17 à 16. Oui, j'ai dû me tromper donc il y a Luc 10 quelque part, hein, il faudrait reprendre les péricopes dans Luc. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ce que je veux dire, c'est que nous avons deux discours dans Luc, un discours dans Matthieu. Dans Matthieu, ça concerne les 12. Dans Luc, ça concerne d'abord les 12, puis après 72. Matthieu regroupe. Luc garde deux discours. Alors, comment comprendre ? Et c'est bien les mêmes paroles, hein. Vous retrouvez ce qui est dit, par exemple, dans Luc chapitre 10, hein, verset 2, il leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Verset 5, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord la paix soit avec. Bon, mais tout ça, vous le retrouvez dans Matthieu 10. Ça se retrouve dans Matthieu 10. C'est les mêmes paroles. Comment comprendre ? Eh bien, je comprends cela de manière suivante. C'est que Matthieu ne trompe pas son public de nouveau. Il regroupe. Parce que Jésus, en envoyant les 72, a aussi envoyé les 12. Les disciples ont participé aux deux envois, les 12. Mais dans Luc 10, il est aussi question des 72. Non, alors c'est 70 ou 72, selon les manuscrits. Et les critiques textuelles aujourd'hui, donc ceux qui s'occupent de la critique textuelle, optent plutôt pour 72. Il y a des problèmes dans les manuscrits. On a donc là, dans Luc, deux discours, dans Matthieu un seul. Matthieu ne s'intéresse qu'aux 12, souligne l'importance des 12, et pas les 72, et donc il regroupe, puisque les 12 étaient aussi impliqués par l'envoi de Luc 10. Dans l'envoi de Luc 10. Travail rédactionnel. D'historien, sérieux, qui ne cherche pas du tout à tromper son public. Troisième texte, troisième discours, les paraboles du royaume. Vous avez tout ça dans Matthieu 13. Vous voyez que dans Luc, on trouve ça dans deux chapitres, chapitre 8, chapitre 13. La communauté du royaume. Matthieu 18, quatrième discours. Vous avez ça dans Luc, au chapitre 9, au chapitre 17, au chapitre 15 et de nouveau au chapitre 17. Matthieu regroupe ce qui est dispersé. L'enseignement de Jésus sur ce thème-là. Comment doit-on vivre dans cette communauté du royaume à venir ? Il regroupe. Dernier texte, dernier discours. Je vais un peu plus vite. Hein. C'est Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. L'annonce de la destruction de Jérusalem, de la fin des temps et des paraboles donc concernant la fin des temps. Vous voyez que dans Luc, ces textes se trouvent dans plusieurs passages, surtout dans Luc 21 et Luc 17. Alors, oui.
Est-ce que parmi les 70 et 72 disciples que Luc parle et les 12 disciples, on va le faire ?
Alors, dans le texte, donc Luc chapitre 10. Vous avez après ces choses donc le Seigneur désigna 72 ou 70 selon les manuscrits et alors dans le texte grec qui a été rousse autre disciple était rousse. Alors, ce hétérous ne se trouve pas dans tous les manuscrits. La Tob a conservé l'autre. Je ne sais pas si dans les autres versions, vous avez autre disciple ou 72 disciples. Tout le monde a autre. Donc, aujourd'hui, c'est ce que propose hein, le texte grec que j'ai sous les yeux, c'est de conserver ce autre. Mais ce n'est pas sûr. De bons manuscrits n'ont pas le autre. Hein, et c'est une notation C. Dans ma version, notation, donc ABCD, c'est une notation C. Quelle est la notation là ? A, c'est très sûr, B, c'est bien assuré, C, c'est pas évident, D, on hésite beaucoup. Bon, vous voyez, donc là, il y a des hésitations. Donc, il y a deux façons de comprendre. Soit les 72 sont en plus des 12, soit les 12 sont inclus dans les 72. Et il semble quand même assez clair que même lorsque Jésus a désigné 72 autres disciples, c'est pour envoyer les 72 avec les 12. En plus. Ou alors les 12 étaient inclus dedans. Mais quoi qu'il en soit, déjà dans Luc, c'est suggéré très fortement, c'est avec les 12 que les 72, 70 sur les manuscrits, devaient partir. Donc, lorsque Matthieu, dans Matthieu 10, dit que c'est pour les 12, il ne trompe personne. Les 12 étaient bien impliqués dans l'envoi des 72 aussi. Mais Matthieu regroupe. Alors, de même, pour la fin des temps, oui.
Dans le texte, je vois que la Bible encore. Est-ce que cela voudrait dire que Jésus avait envoyé avant le 72, avait envoyé d'autres disciples avant ce. Est-ce que ça vient d'un deuxième endroit?
Oui.
Alors
le mot encore n'est pas dans le grec, mais c'est sûr. Après ces choses, donc Jésus désigna. Alors le encore dans votre version traduit d'autres disciples, un autre. Hein. Donc puisqu'il y a qui sont d'autres, c'est qu'il y a eu avant 12 disciples, parce que certains qui ont été désignés. Hein. Et donc le encore là suggère que ça se passe après un premier envoi.
Hein?
Oui, non, ce serait plutôt numérique ou... Oui, c'est encore. Bon, de même donc pour la fin des temps, hein, je vais un peu plus vite, hein, la fin des temps, Matthieu regroupe dans Matthieu 24 et 25 des éléments qui sont dispersés dans Luc. Pourquoi? Pour donner l'ensemble dans un discours, enfin dans un chapitre, l'ensemble de l'enseignement de Jésus sur la fin des temps. Il y a donc là un condensé, si vous voulez, de cet enseignement. Cela m'amène à dire que si Matthieu a fait ce travail rédactionnel de regroupement dans 5 discours de données éparpillées, en particulier dans Luc, c'est qu'il y a là un élément structurel important dont il faut tenir compte. Un élément qui est pertinent, puisque ça correspond précisément au travail rédactionnel de Matthieu. Matthieu a voulu 5 discours où il résume l'enseignement de Jésus sur 5 points. Oui. Donne l'enseignement de Jésus sur 5 points. Ce fait me semble prouvé, d'autant plus, par des formules conclusives que l'on retrouve après chaque discours. Alors, on va chapitre 7, versets 28 et 29. C'est un deuxième indice structurel. Chapitre 7. Oui. Ah, mais je suis dans Luc, je dis bien, ça me semble étrange. Chapitre 7, donc à la fin, nous sommes sur la montagne. Il est dit, « Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. » Allusion aux foules frappées par l'autorité de Jésus, par l'enseignement de Jésus. Formule conclusive. On retrouve une telle formule au chapitre 11, verset 1, à la fin de l'enseignement de Jésus sur l'envoi. Chapitre 11, verset 1. Or, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions, c'est exactement la même formule, hein, à ses 12 disciples, il partit de là et enseigna et prêcha dans leur ville. Quand Jésus eut achevé. Même formule. On retrouve cela au chapitre 13, à la fin la section sur les paraboles. Verset 53. 13, verset 53. Or, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il y a là des notes rédactionnelles, des marques rédactionnelles évidentes. Et l'on retrouve cela au chapitre 13, donc au chapitre 18. Chapitre 18, en fait c'est le chapitre 19, versets 1 et 2. Je rappelle que la division en chapitres en versets dans la Bible n'est pas inspirée. Hein. Ça a été fait au Moyen-Âge, hein, et que bon, il faut faire avec. Donc chapitre 19, versets 1 et 2. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit de la Galilée et vint dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Chapitre 19, 1 et 2. Et puis deux grandes foules le suivirent. Là, de nouveau, il y a une question des foules, comme dans la fin du chapitre 7 de Matthieu. Et l'on retrouve encore cela au chapitre 26, verset 1, vous avez ça dans le plan que je vous ai donné, 26, verset 1. Or, quand Jésus a achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous le savez, bon, voilà. Bien. Ça, c'est très frappant. On a là, de manière évidente, une démarche rédactionnelle. On regroupe donc cinq discours qui sont chaque fois conclus par la même, une formule identique, par une formule du même type. Deuxième, donc, indice structurel. Troisième indice structurel. Vous avez les textes de guérison diverse. Les textes de guérison diverse qui, qui reviennent régulièrement dans Matthieu et que l'on ne retrouve pas nécessairement dans Marc et dans Luc. Par exemple, au chapitre 4, verset 23-25, donc juste avant le sermon sur la montagne. Chapitre 4, verset 23-25. Puis parcourant toute la Galilée, l'enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés. Il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée et de la Décapole. Ah, c'est frappant. C'est un résumé. On retrouve exactement la même chose, quelque chose du même type, au chapitre 9, verset 35, au chapitre... voilà, 9, 35 et 38, juste avant le deuxième discours. Là, on est avant le premier discours. Eh bien, au chapitre 9, verset 35 et 38, on le retrouve avant le deuxième discours. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, il y enseignait dans leur synagogue. On a exactement leur synagogue aussi au chapitre 4 que nous venons de lire. Il y a là la polémique contre les juifs. Bon, voilà. Proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité, voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées, etc. Formule de nouveau du même type, une sorte de résumé. On retrouve la même chose. Ah, déjà, c'est un peu avant, au chapitre 8, versets 16 et 17. Mais là, on ne va pas le lire. Voilà. C'est intéressant, ces formules qui finissent. Alors, ces formules concluent quoi sur ces deux formules, sur les guérisons diverses? Elles concluent des sections narratives. Une section narrative au début, la naissance de Jésus. Là, avant, au chapitre 9, verset 35, c'est une section narrative qui sépare le sermon sur la montagne du deuxième discours, 8, 9 et 10. Et l'on voit donc une alternance entre section narrative et discours. Chapitre 11, 12, section narrative. Jésus qui guérit un possédé. Chapitre 14, 15, 16, 17, section narrative. Pain des pharisiens, confession de Pierre, transfiguration, miracle, vous savez, du poisson où il y a l'argent dans la bouche, là. Dans le chapitre 17 de Matthieu. Puis on a de nouveau une section, après discours, chapitre 18, section narrative 19, etc. Entre les discours, chaque fois une section narrative. C'est assez intéressant. Cela a amené Bacon, alors je vous donne son... Vous l'avez en... Attendez, où est-ce que je suis? Je suis perdu dans les papiers. Vous avez en note... Voilà, page 40. Vous avez en note Bacon, The Five Books of Matthew Against the Jews. Donc la structure d'alternance entre narration et discours, structure chiastique. Vous avez Bacon qui a proposé comme théorie, une théorie qui a eu pas mal d'échos dans le monde théologique. Bacon qui dit, en fait, l'évangile de Matthieu, c'est un nouveau Pentateuque. Un nouveau Pentateuque. Jésus se présente, et nous allons y revenir, comme un nouveau Moïse, qui donne une nouvelle loi, cinq livres de Moïse, nouveau Moïse, à son peuple. Alors aujourd'hui, cette thèse est abandonnée. Peu la soutiennent encore, parce qu'on ne voit pas comment faire correspondre les cinq discours de Jésus aux cinq livres du Pentateuque. Mais l'idée de cinq discours prononcés par un nouveau Moïse est quelque chose qui... une nouvelle loi, si vous voulez, une perspective du royaume, c'est quelque chose qui a été retenu par les théologiens. Matthieu nous présente Jésus comme celui qui annonce le royaume à venir. Cette annonce est condensée en cinq discours qui alternent avec des récits, une narration, qui montrent le progrès du royaume qui est annoncé dans ces cinq discours. Nous allons y revenir un peu plus dans le détail. Quatrièmement, donc dans mon plan, autre indice. Autres indices. Alors, il y aurait de très nombreux indices encore à relever. Je vais en relever juste un. Il y en aurait beaucoup d'autres. Prenez le début de Matthieu. Vous avez la généalogie de Jésus qui introduit le livre, l'évangile. La généalogie de Jésus. Puis vous avez au verset 18 jusqu'au verset 25 le texte sur la naissance de Jésus, l'annonce à Joseph et la naissance de Jésus. Et vous voyez que ce passage se conclut par un texte de l'Ancien Testament, qui est rappelé, verset 22, hein, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, voici que la Vierge concevra, enfantera un fils. Donc Ésaïe chapitre 7. Vous avez donc là une péricope qui se conclut sur une prophétie dans l'Ancien Testament. Deuxième texte, la visite des mages, enfin troisième texte après la généalogie, la visite des mages, chapitre 2, verset 1 à 12. Cette visite des mages est centrée sur un deuxième texte de l'Ancien Testament, qui est cité par les pharisiens, par les scribes, au verset 5, on peut lire au verset 4. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'y sortes pas. Rappel de Michée, chapitre 5. Troisième, quatrième péricope, la fuite en Égypte. Verset 13, donc chapitre 2, verset 13 à 15. La fuite en Égypte qui aboutit au verset 15 sur ce rappel d'un texte de l'Ancien Testament, qui est tiré de Osée, chapitre 11, verset 1. Donc il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète, d'Égypte j'appelais mon fils. A, B, C, D, E. Cinquième péricope, chapitre 2, verset 16 à 18, le massacre des enfants de Bethléem, avec de nouveau une citation dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 31, verset 15. Vous avez ça sur mon plan. Hein. Et dernière péricope, le retour à Nazareth, chapitre 2, verset 19 à 23, qui aboutit à cette affirmation du verset 23. Donc il va habiter une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. On a là 2, 4, 6 péricopes 5 après la généalogie de Jésus, qui chacune aboutissent ou sont centrées sur une prophétie de l'Ancien Testament qui s'accomplit. Il y a là, et cela donc, ça aboutit au premier discours, l'évangile du royaume, sermon sur la montagne. Il y a là, de manière évidente, un travail rédactionnel. Vous n'avez pas ça dans Marc, vous n'avez pas ça dans Luc, vous n'avez pas ça dans Jean. Les évangiles, les autres évangiles ne commencent pas comme ça. Chaque fois une péricope qui aboutit sur un accomplissement de prophétie. Travail rédactionnel. Alors, vous me donnez un peu de temps, on y reviendra. Si jamais je l'oublie, bon, c'est normalement prévu dans la théologie de Matthieu, par les textes. Hein. Mais on va y venir. C'est un texte qui est un peu difficile. Mais on y revient. On a donc, au début de l'évangile, de manière tout à fait volontaire de la part de Matthieu, des péricopes qui tournent autour, chaque fois, d'une prophétie dans le Saint Testament qui s'accomplit. Indice structurel. Cela m'amène à vous proposer le plan de Matthieu suivant, que vous avez sur vos papiers. Alors je l'ai développé dans le détail. Je n'ai pas le temps du tout de tout justifier. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez donc cinq discours. Attendez, c'est une page. Voilà, c'est bon. Page 41, 42, 43, 44, 45. Vous avez premièrement le prologue, la venue du Sauveur annoncé, avec ces péricopes qui aboutissent chaque fois sur une prophétie. Travail rédactionnel de Matthieu. Puis vous avez l'évangile du royaume, chapitre 3, verset 1 à 7, verset 29. Alors vous avez tout d'abord une partie narrative qui introduit de Jean-Baptiste à Jésus, chapitre 3 et 4, avec un premier discours, le sermon sur la montagne. Chapitre 5, 1, 7 à 29. C'est ce que j'appelle l'évangile du royaume. C'est une section narrative et discours. L'évangile du royaume. Deuxième, troisième partie, l'autorité du fils serviteur et le royaume proclamé. Alors pourquoi fils serviteur? C'est parce que ce sont des notions que l'on trouve dans le texte, mais bon, on n'a pas le temps de le voir pour l'instant, on va y venir. Hein. Narration. Perplexité, enthousiasme et première opposition. Je vais y venir. Deuxième discours, choix et envoi des douze. Ça va ensemble. Partie narrative, discours. Quatrième section, introduction du royaume et montée de l'opposition. Vous avez de nouveau une narration, 11 et 12, qui aboutit au discours, chapitre 13. Cinquième section de Matthieu, 13, 54 à 19, 2. Narration, 13 à 17. Quatrième discours, chapitre 18. Accueil et rejet du roi, censure au triomphe de la grâce. Je vais peut-être justifier tout ça. Une partie narrative, et puis le discours 24-25. Et la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, avec une structure que je n'ai pas le temps de justifier. Voilà un petit peu ce que je vois comme structure dans l'évangile. Oui. Alors, Bonnard, dans son commentaire, oui, tout à fait, oui. Alors, dans le détail, je ne me souviens pas, mais globalement, ça suivrait cela. Alors, dans le détail, vraiment, comme j'ai retravaillé tout cela il y a un mois, je n'ai pas pris le commentaire de Bonnard pour le détail. C'est mon travail personnel, hein. Mais oui, globalement oui. Ce que j'aimerais montrer maintenant pour finir, parce que là nous avons fait un travail un petit peu fastidieux. Alors, la théologie, c'est un peu fastidieux aussi. Alors, j'aurais peut-être aussi souligné un point. Parce que nous avons passé au grand 5, l'intention de Matthieu. C'est à cela que nous aboutissons en faisant ce travail structurel. Le grand danger pour un chrétien, pour un théologien, pour un chrétien, c'est de faire dire au texte ce qu'on veut qu'il dise. C'est de projeter dans le texte ses idées à soi et de ne pas se soumettre au texte. C'est le grand danger. Alors comment, du point de vue méthodologique, éviter ce danger? Alors on n'évitera jamais ce danger totalement. On a tous nos idées, nous avons tous nos lunettes et nous lisons toujours un texte avec nos lunettes. Mais comment éviter ce danger? En utilisant une méthode qui nous oblige à nous soumettre au texte, c'est en faisant une analyse structurelle. C'est en disant au texte de s'imposer à nous par son ossature. Si déjà j'arrive à discerner l'ossature du texte, je vais au moins devoir me plier à sa façon de présenter les choses. Et moi, je suis très frappé de voir dans les prédications ou dans les études bibliques que j'entends parfois, combien les prédicateurs ou les qui font les études bibliques, je ne parle pas de mon église, hein, je parle d'autres églises, hein, la mienne ne dirait jamais ça, mais combien les gens ont de la peine à faire ce travail dur et fastidieux qui est pourtant l'une des clés fondamentales pour laisser la parole de Dieu parler d'elle, par elle-même. C'est tellement facile de prendre un texte et de dire « Waouh, voilà, j'ai des idées, là, sur le texte. » Eh bien oui, avant d'avoir les idées, il faut les mettre de côté. Il faut dire « comment est-ce que ce texte s'impose à moi ?» Et ça, c'est en train de sa structure. Alors, la structure, bien sûr, il ne faut pas en rester là. Si nous en restions à ce que nous avons fait là, ce serait un petit peu sec, hein, comme démarche. Mais maintenant que nous avons discerné la structure du texte, en tout cas telle que moi je la comprends, peut-être je me trompe, hein, à la suite de beaucoup d'autres, nous allons maintenant nous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que cette structure met en évidence? Qu'est-ce que Matthieu a voulu montrer en nous présentant son évangile de cette manière-là? Qu'est-ce que ça m'impose comme compréhension de l'évangile, cette structure? Alors c'est ce que j'essaie de montrer dans mon point 5, recherche structurelle, l'intention de Matthieu. Et je vous propose comme clé ces deux mots, le royaume et le roi. Il me semble que l'intention de Matthieu est de nous montrer comment, au travers de Jésus, le royaume fait intrusion dans la vie du peuple de Dieu. Le royaume pénètre dans l'histoire, au travers de Jésus, au travers du roi. Et que par cette alternance de narration, il est la nuit, donc on va arrêter en continuant cet après-midi, hein, mais je finis cette pensée, que par cette alternance de texte narratif et de discours, on arrive petit à petit à une sorte de clivage au sein du peuple face à l'annonce et à l'intrusion de ce royaume. Vous savez que dans Matthieu 16, vous avez un texte qui dans la Colombe est traduit « Le royaume de Dieu est forcé » et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors en grec, c'est le mot biazetai, qui est soit un moyen, pour ceux qui savent un peu le grec, soit un passif. Alors la colombe traduit par un passif. Le royaume de Dieu est forcé. Calvin, que suit la Bible du Semeur, traduit ce biazetai par un moyen. Le royaume de Dieu se fraye un passage. C'est une autre façon de comprendre ce temps. Pronominal, si vous voulez. Ce n'est pas le royaume de Dieu est forcé, mais c'est le royaume de Dieu se force. Force un passage. Se fraye un passage. C'est comme ça que Calvin et d'autres théologiens comprenaient déjà le texte. Et la preuve, à mon avis, c'est que dans le texte parallèle de Luc, il n'y a pas biazetai. Mais comment est-ce que Luc, je crois que c'est Luc chapitre 16 et quelques, verset 11 ou un truc comme ça, comment est-ce que Luc traduit ce verset, transmet cette parole de Jésus, qu'il a dit en araméen, comment est-ce que Luc traduit Jésus? Il dit « la parole de Dieu est évangélisée et proclamée, et les violences s'en emparent. » Il me semble donc que l'idée, ce n'est pas que le royaume de Dieu est forcé par des violents, mais c'est que le royaume de Dieu se force un passage par la prédication. Ça permet de concilier Luc avec Matthieu. Si on traduit par un passif, on a la peine à penser que c'est la même parole de Jésus qui a été traduite de manière différente. Et le royaume de Dieu se force un passage. On a ça donc dans Matthieu. Je crois que l'intention de Matthieu est de nous montrer qu'au travers de l'accomplissement du plan de Dieu, dans la personne du roi, le royaume est en train de se forcer un passage. Les guérisons, chasse les démons, tous les textes narratifs. Se force un passage au travers de l'enseignement du roi, 5 discours, qui produisent un clivage progressif au sein du peuple et qui aboutit à la rupture et à la condamnation du roi, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors je vais le montrer, hein. Cet après-midi, je vais essayer de montrer cela, et puis après nous passerons au grand B en essayant de prouver encore cela de manière plus précise, où nous répondrons aux questions du Nazoréen et d'autres questions. Ça va?
Bon.
Question sur? Oui, il y avait quelqu'un qui avait posé une question, je dirais qu'on le verrait un peu plus tard. Sur alors, c'est une des références que donnent certaines Bibles. Pourquoi? Parce que certains rapprochent le mot nazoréen du mot rejeton, qui, du point de vue phonétique, en hébreu, ressemble à Nazar, hein, bon. Et Ésaïe 52, c'est ça? C'est le mot sauvé. 53.2. Ah, oui. C'est le mot sauvé. C'est un des mots sauvés. C'est le sauvé, le libéré, qui, du point de vue phonétique du nouveau, se rapproche du mot nazaréen. Personnellement, je ne crois pas que c'est la bonne interprétation. Mais on peut. C'est une interprétation proposée par plusieurs, de nombreuses personnes. D'autres le rapprochent aussi du mot nazir, naziréen. Jésus serait le naziréen, par excellence. De même que Jean-Baptiste l'a été. En fait, c'est Jésus le vrai, consacré à Dieu. De même que Jean-Baptiste a été nazir, il n'a pas mangé il n'a pas bu d'alcool, il s'est poussé les cheveux, comme quelqu'un qui se consacre. Naziréen, ça veut dire le consacré. Mais je ne pense pas que ça, non plus, ce soit la meilleure interprétation. Il ne me semble pas. Précisément, il buvait du vin. On l'accusait même d'être un peu... d'en boire un peu trop.